Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle, mais aussi des pigistes et des mannequins. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement pour le 10e épisode de Par Intermittence et faites connaissance avec Caroline, pigiste. Bonjour.
Bonjour.
Je te remercie de participer à cet épisode de Par Intermittence. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent?
Oui. Donc, je m'appelle Caroline, je suis journaliste pigiste, c'est-à-dire que je suis journaliste indépendante, c'est-à-dire que je suis payée par différentes rédactions à la taille de l'article, plus exactement au feuillet. Un feuillet, ça veut dire un texte. Il faut s'imaginer une petite brève, un petit texte.
Et du coup, ça veut dire quoi être pigiste? Parce que c'est un peu flou peut-être pour les personnes qui nous écoutent.
Alors, je me suis présentée en tant que journaliste pigiste, en fait, c'est un peu un euphémisme. Pigiste, c'est journaliste indépendant. Être pigiste, c'est... En fait, on a ce qu'on appelle la loi Cressard, qui date de 1974, qui institue le CDI présumé des pigistes, ce qui est une bizarrerie difficile à comprendre pour n'importe quel autre métier, qui fait que moi, par exemple, si je vends une pige par an à une rédac, c'est vraiment occasionnel, donc je ne suis pas CDI. Mais en l'occurrence, j'ai une rédaction avec laquelle je travaille régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par mois même. Je suis considérée comme CDI présumé. Mais, parce qu'il y a un mais là-dedans, je n'ai pas de salaire fixe. Je suis payée à l'article. Et si je ne travaille pas, un mois par exemple, j'ai zéro. Mais j'ai tous les droits associés au contrat de CDI, c'est-à-dire que mes congés payés sont payés sur ma fiche de paye. J'ai des droits au chômage, je dois être licenciée si jamais la rédaction ne veut plus travailler avec moi. Et j'ai aussi la sécurité sociale, ce qui m'a notamment un peu aidée au moment de mon burn-out. Ça m'a sauvée parce que j'ai la chance d'avoir une super rédac et c'est vraiment loin d'être le cas pour tous les pigistes. Donc je ne veux pas faire de mon cas une généralité.
Est-ce que c'est un choix de travailler à la pige ?
Alors, au début, c'était pas du tout un choix, je l'ai subi. À force de ramer et de... mais aussi de travailler avec des rédacs que j'aime, profondément. Et d'avoir aussi trouvé des collègues, des camarades de pige, ça m'a... Bizarrement, je commence à aimer la pige parce que j'ai recréé une vie autour de la pige. Une vie associative, une vie complètement hors des clous, c'est-à-dire que si j'ai pas envie de travailler un mercredi, je travaillerai pas le mercredi. Par contre, je travaillerai aussi samedi, dimanche, ça me dérange pas. Je n'ai aucun rythme et je commence aujourd'hui. J'aime bien ça parce qu'il y a des sujets que je peux aborder avec des rédacs et d'autres pas, mais je peux aborder avec d'autres rédacs. Et j'ai recréé tout mon univers autour de ça. Pour compléter un petit peu ce que je dis, en fait, il faut savoir que le CDI, aujourd'hui, en rédaction, c'est une espèce en voie de disparition. Alors, ça existe encore, hein, je vous rassure. Il y a encore des gens qui sont embauchés, mais ça reste une minorité, y compris des CDD. Par exemple, moi, j'ai enchaîné, j'ai fait plusieurs contrats CDD, souvent l'été, ou alors pour remplacer quelqu'un en congé mat, ou je ne sais quoi. Mais on va dire que le marché du journalisme est très resserré et que les rédactions aussi font appel énormément aux pigistes pour des raisons économiques, organisationnelles, etc. C'est presque institutionnalisé, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas une insulte que d'être pigiste. En fait, on est journaliste de la même manière que n'importe quel autre journaliste, juste on n'a pas la stabilité de l'emploi, voilà.
Je crois que tu n'étais pas prédestinée à faire de la presse écrite.
Non, pas du tout. Alors, j'étais prédestinée à pas grand-chose, à part l'écriture, j'aimais bien. J'ai fait des études de lettres, mais une fois passée la licence, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'ai tout envoyé balader et je suis partie en Australie, histoire de vivre un petit peu, parce que c'est quand même chouette. En gros, pendant toute ma licence, j'ai pas eu de vie sociale, très peu de vie sociale, parce que je travaillais à la fois sur ma licence, je travaillais au resto où j'avais un 25 heures par semaine, mais en vérité, je faisais des heures sup. Enfin bref, j'avais quasiment pas de vie. Et à un moment donné, j'étais quand même un peu jeune, j'en ai eu marre et je me suis dit, mais c'est pas ça ma vie, tout simplement, j'ai envie d'aller vivre, je vais finir ma licence pour avoir un diplôme en poche et je me barre en Australie. Parce que je connais pas l'Australie, que c'est loin et que j'ai envie d'apprendre l'anglais et que je vais devoir me débrouiller toute seule.
Et donc, retour à la capitale après, qu'est-ce qui se passe?
Retour à la capitale, j'ai plus un rond en poche. Et du coup, je trouve un job de assistante administrative slash assistante d'accueil slash chargée de clientèle, mettez tout ce que vous voulez dedans, dans une maison de thé où je remplissais des tableurs Excel toute la journée, je répondais au téléphone. À la fin de mon année, j'allais pleurer dans les toilettes en me demandant est-ce que c'est vraiment ça que je vais faire de ma vie. J'ai craqué, j'ai pété les plombs, j'ai fait une recherche Google à la va-vite, j'ai vu la première prépa concours d'école de journaliste. J'ai dit ok banco c'est parti j'y vais, je peux pas continuer comme ça.
Comment ça se passe pour accéder à une école de journalisme?
Alors les écoles de journalisme c'est très élitiste, pour la faire courte, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'écoles de journalisme, y compris privées en France, mais qui ne sont pas reconnues par la profession ou par l'État. Ça veut dire qu'en fait on a acheté son diplôme mais on n'a pas grand chose à la fin. Là, l'idée, c'est que quand on rentre dans ces écoles, ça nous ouvre les portes, en quelque sorte, des grandes rédactions pour pouvoir faire des stages, faire de l'alternance, avoir des contacts aussi, parce que l'école de journalisme, en fait, c'est un peu notre premier réseau. Déjà, entre nos professeurs qui sont eux-mêmes journalistes dans des grandes rédactions, et puis parce que nos camarades vont devenir nos futurs collègues aussi. Et à l'époque, je n'y connaissais absolument rien. J'étais tellement nulle dans le domaine que je ne lisais même pas la presse, ni ne regardais la télé, ni n'écoutais la radio. Autrement dit, j'avais énormément de travail devant moi. Je savais très bien que pour préparer ces concours, j'aurais été incapable de le faire toute seule, vu que j'ai pas non plus farfouillé énormément. J'ai trouvé la première prépa sur Google, qui était privée évidemment. Et là, j'ai pris un crédit pour à la fois payer la prépa qui était très chère, payer une année entière de vie, c'est-à-dire loyer, courses, et aussi les prix des concours qui ne sont pas gratuits. Et comme c'est dans toute la France, faut aussi payer le billet de train, éventuellement l'hôtel. Donc je me suis dit, c'est pari sur l'avenir, par contre ma grande, t'as qu'une chance en fait.
Donc tu sors de cette école, au bout de combien de temps? Et comment tu trouves du travail après cette sortie d'école?
Alors, donc du coup, j'ai fait mon année de prépa, j'ai eu mon concours dès la première fois parce que j'avais pas le choix. L'école, c'est un master, hein, donc c'est en 2 ans. Je suis sortie en 2019, c'était 6 mois avant le Covid. Ça fait que j'ai eu de la chance parce que j'ai eu le temps de faire correctement ma scolarité. J'ai pu faire des stages assez sympas et j'ai pu obtenir un CDD d'été dans une grande rédaction. Après, grand classique quand on sort d'école de journalisme, c'est qu'on a beau avoir passé les concours et être entre guillemets dans l'élite de la nation, on est surtout dans l'élite des précaires. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun boulot à la sortie. Pour la petite anecdote, quand on est en école de journalisme, la dernière année, il y a encore des concours de sortie d'école pour rentrer dans des grandes rédactions où on gagne à la fin un CDD de 3 mois. Et là, c'est tout le monde qui se bat pour gagner ce CDD de 3 mois.
Est-ce qu'il y a une journée type ? Lorsque tu dois écrire un article qui se retrouve dans la presse, c'est quoi son histoire ?
Il n'y a pas de règle. Il y a deux cas de figure, entre guillemets. Donc moi, en presse écrite, ça va être soit je propose un sujet à une rédaction qui va me dire oui, non, ou à l'inverse, c'est une rédaction avec laquelle je travaille régulièrement qui va m'appeler et me dire, voilà, on aurait besoin d'un article pour telle date sur tel sujet. Ensuite, c'est eux qui me donnent la taille de l'article, qui fait qu'entre un 2 feuillets et un 10 feuillets, je ne vais pas passer évidemment le même temps et je suis obligée de réfléchir malheureusement aussi à la rentabilité de l'information. Après, combien de temps ça met, ça dépend énormément parce que pour produire cette information, donc déjà il faut que je fasse des recherches, à chaque fois ce sont des sujets différents que je ne connais pas la plupart du temps. Et l'idée c'est aussi de trouver les bonnes sources qui vont pouvoir m'apporter de l'information sur ce sujet-là. Donc c'est de la recherche supplémentaire, c'est des contacts, c'est caler des interviews, des rendez-vous avec les personnes selon évidemment leur emploi du temps. Ensuite, préparer aussi ces interviews-là. Et après, une fois qu'on a tout, faire un espèce de bouillon de culture de tout ce que j'ai enregistré en devant faire des choix. C'est-à-dire que j'ai une masse d'informations monstrueuse et je ne peux en mettre qu'une petite partie à la fin. Donc ça prend un certain temps. Puis après, il y a le temps de l'écriture où on s'arrache les cheveux pendant 2 heures juste pour trouver une phrase d'accroche parce qu'on ne sait pas comment commencer. Et qu'après, on a la deadline et qu'on se dit « Ok, dans 2 heures, il faut que j'ai pondu mon article, là je sais pas comment je vais faire mais je vais y arriver. »
Tu as travaillé de façon acharnée pendant 6 ans jusqu'à...
craquer. Depuis que je me suis lancée donc dans le journalisme, c'est-à-dire depuis ma prépa qui a été évidemment très intense, j'ai gardé un espèce de rythme de travail assez soutenu et assez scolaire pendant très longtemps. Et y compris quand j'ai commencé à la pige, en fait quand on commence à la pige, qu'on est jeune journaliste, qu'on sort d'école, c'est vraiment, on est jeté dans le grand bain. En fait, on est seul chez soi et à se demander comment on fait. Et donc, j'ai été très, très scolaire dans ma façon de faire. Et j'étais prise comme n'importe quel pigiste par l'impératif de rentabilité pour pouvoir vivre, tout simplement. Et je me suis mise une pression monstrueuse pendant des années, aussi parce que j'avais un crédit sur le dos de 25 000 euros qui faisait que j'avais pas la conscience tranquille, ni le compte en banque tranquille, disons. Je me suis mise énormément la pression, j'ai une capacité à tenir la pression, mais je me suis pas rendu compte qu'à un moment donné, cette pression était en train de m'écraser. Jusqu'au jour où, bon, ça faisait un petit moment que j'étais pigiste et que je travaillais régulièrement avec une rédaction avec laquelle je m'entends extrêmement bien d'ailleurs. Mais j'avais de plus en plus de mal, je pouvais passer des heures, mais jusqu'à minuit, allongée dans mon lit à essayer d'écrire mon article, à pas y arriver, à pleurer un peu, mais bon, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Je craquais déjà énormément, je pleurais déjà énormément, mais j'avais tendance à me dire, c'est pas grave, tu vas t'en sortir, t'es plus forte que ça, tu pleures un bon coup et tu redémarres. Et là, je sais pas, je dirais à peu près une semaine, 10 jours, il y a un peu tout qui s'est crashé d'un coup, où... C'était la fameuse rédac avec laquelle je travaille énormément qui m'a demandé d'aller faire une interview. Où là, pour le coup, je suis allée prendre un café donc avec quelqu'un pour cette interview. Et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout parce que déjà, à la préparation de l'interview, j'y comprenais rien. Enfin, je passais des heures à essayer de travailler mon sujet, mais j'avais vraiment les neurones qui, je sais pas, qui claquaient dans mon cerveau, mais qui ne pigeaient rien du tout. J'y suis allée dans les transports en commun, je pleurais. Au retour de l'interview, je pleurais. C'est juste que je ne comprenais pas ce que le type était en train de me dire. Et plus j'essayais de me concentrer sur lui, sur ce qu'il me disait, moins j'arrivais à comprendre. Et c'était très étrange, vraiment. Et j'étais incapable de dire pourquoi je pleurais, juste j'étais épuisée. Et en fait, j'ai passé une semaine à pleurer, 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 à beaucoup pleurer et à être complètement incapable de quoi que ce soit. Alors mon médecin, parce que je suis allée voir le médecin, qui m'a vu en train de pleurer, qui m'a dit « Oui, ça ressemble à un petit burn-out ».
Après avoir vu ce médecin, qu'est-ce qui se passe ?
Bon, ce médecin m'a mise en arrêt pendant un mois. Et après, j'ai repris le travail gentiment. Ah oui, je tenais aussi quand même à préciser, j'ai eu une chance. C'est qu'au moment de craquer, j'ai envoyé un petit SMS à ma fameuse rédactrice en chef avec laquelle je travaillais beaucoup pour lui dire que j'avais besoin d'arrêter parce que j'en pouvais plus. Son premier réflexe, aussitôt, elle m'a dit « Ok, il n'y a pas de souci, si tu veux, viens prendre un café maintenant. » On va en discuter. Il n'y a eu aucun problème. Elle m'a dit, écoute, il n'y a pas de souci. Tu te mets en arrêt. Tu sais, nous, on t'attendra. Ça doit prendre le temps que ça prendra. Juste, prends soin de toi. Et j'avais aussi la pression de me dire, mais en fait, si j'arrête tout, tout ce que j'ai construit, elle va s'effondrer. C'est-à-dire que je vais plus avoir de boulot, je vais plus avoir d'argent. Je peux pas me permettre de pas avoir d'argent parce que j'ai pas d'économie de côté. Et puis, je vais devoir reconstruire les liens que j'ai construits avec mes rédacs. Ça va être un enfer. Et rien que ça, ça m'a fait un bien fou, en fait.
Qu'est-ce que tu as changé pour prendre soin de ta santé mentale à partir de ce moment-là ?
Alors, il y a énormément de choses qui ont changé. Ça a été la révolution dans ma vie. Bon, d'une part, au bout d'un an après le burn-out, je tiens à préciser, je me suis décidée à aller voir une psy. Parce que j'estimais que je pouvais m'en sortir tout seul, que ça allait très bien, que voilà. Sauf qu'un an après ce fameux burn-out, je continuais de pleurer pour absolument tout et n'importe quoi. Donc, c'est ce que j'ai réussi à admettre, d'une part. Et d'autre part, après, j'ai tout changé. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, le travail, même si j'aime mon travail, là, je l'aime plus. C'est plus possible. Ma vie, c'est pas que ça. Donc, je vais m'autoriser à faire plein d'activités que je me suis jamais autorisée à faire parce que j'avais pas les moyens. Et je me suis lancée dans la danse, je me suis lancée dans la boxe, même si en ce moment j'y vais plus beaucoup. Je me suis lancée aussi dans des associations, beaucoup d'associations, déjà pour donner du sens à ce que je fais, sortir du travail. Et puis en fait, parce que j'ai jamais été sportive de ma vie, mais pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti le besoin de me dépenser, de lâcher un petit peu tout le stress, toute la colère dans la boxe et de me détendre dans la danse et rompre avec l'isolement. Donc ça m'a fait un bien fou. J'ai rencontré du monde. Au début, ça me faisait presque bizarre. J'avais l'impression de sortir de mon confinement. Ça m'a fait un bien fou, même de rencontrer du monde qui n'était pas du monde journalistique et de redescendre les pieds un peu sur terre et de me dire, ah ouais, ça fait du bien d'aller picoler un lundi soir avec des gens que je connais pas. Bon, je fais pas l'apologie de l'alcool, hein. C'est juste dire, on va danser et ensuite on va prendre un verre et on va discuter de n'importe quoi.
Parce qu'avant, c'était que travail, 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 la rentabilité.
Je me suis presque imposé un emploi du temps parce que j'étais capable de ne pas m'arrêter du tout tant que j'avais pas fait toute ma to-do list. Donc en fait, de rester jusqu'à minuit chez moi à travailler et à évidemment ne pas être efficace. Hein. Donc je me suis Pour me piéger moi-même, je me suis imposé des cases dans mon emploi du temps qui étaient dédiées à tout sauf le travail. Donc le cours de danse le lundi soir, j'allais trouver le cours de boxe le mardi soir et le vendredi soir, ce qui fait que je me dis à 18h ce soir, je ne suis pas là, je vais me détendre.
Et est-ce que tu reprends du plaisir à travailler ou en tout cas à rédiger des articles par rapport à avant, malgré la diminution de l'intensité que tu mets dedans?
Alors oui, ça a mis énormément de temps, parce que je pense que j'ai mis un an et demi quand même à me ressortir de tout ça. C'est beau sur le papier, mais ça prend beaucoup de temps de m'en sortir. Aujourd'hui, je prends à la fois du plaisir déjà à vivre, et quand j'écris mes articles, bah, je les comprends plus, j'ai moins cette espèce de brouillard dans le cerveau, donc j'arrive plus à me concentrer, et j'arrive aussi à prendre du plaisir, à en parler autour de moi, ce que je n'arrivais même plus à faire en fait.
Quel conseil tu aurais aimé recevoir quand tu es sorti de l'école de journalisme?
Ne pas rester seule. Au sens où c'est ce qui m'a le plus miné, qui fait que j'ai fait des erreurs de débutant que, évidemment, j'aurais peut-être pas faites si j'avais été mieux accompagnée. De trouver des collectifs de pigistes, parce qu'on est tous dans la même galère et que c'est un milieu très très particulier. Donc il vaut mieux être bien entouré de ce côté-là. Notamment, je pense à Profession Pigiste, qui est quand même l'arène des associations de pigistes. Déjà, qui fournit tous les conseils dont on a besoin, qui nous aide aussi peut-être à démarrer et à. Qui crée aussi ce qu'on appelle les apéro-pigistes, c'est-à-dire des moments de convivialité entre pigistes où on peut se donner à la fois des conseils et à râler sur les rédactions. Parfois, on a besoin de râler. Ensuite, au fur et à mesure, c'est réussir à avoir plusieurs employeurs. Ça prend du temps évidemment à faire, mais ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est que j'ai une espèce de balance fixe et plus précaire entre guillemets dans mes revenus, c'est-à-dire que j'ai un employeur à la télévision pour lequel je travaille régulièrement 2 à 3 fois par mois peut-être. Mais ça me permet d'avoir un minimum de revenus tous les mois d'assurer. Et à côté, j'ai mes piges qui sont plus incertaines, au sens où parfois je peux gagner 2000 euros dans un mois, l'autre mois j'ai 300 euros. Il faut équilibrer un petit peu entre tout ça. Quel autre conseil? Bah, paradoxalement, ce serait aussi de s'accorder des moments de vie. Et non, bah, si aujourd'hui, là, tu te sens vraiment pas bien et que tu as juste besoin d'aller prendre un café avec une pote parce que tu es au bout de ta vie, eh ben c'est pas grave, tu seras pas rentable, mais de toute façon, rester devant ton ordi à ramer pendant une journée, ça ne te rendra pas plus rentable.
Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier?
Un peu tout, c'est ça qui est paradoxal, mais à la base, c'est le côté apprendre, apprendre en permanence. On met sur un sujet, sur n'importe quoi, un sujet environnemental, pareil, je connaissais pas, j'en ressors avec des nouvelles connaissances, parce que je parle beaucoup avec des chercheurs ou des chercheuses, donc à chaque fois, j'apprends un tas de choses. Ou alors, quand j'ai la chance d'aller en reportage, c'est juste de rencontrer des nouvelles personnes, de voir des nouvelles manières d'être. Enfin, c'est plus une espèce d'ouverture d'esprit, une ouverture sur le monde qui est juste phénoménale. Plus ça va, plus je me sens bête parce que je me rends compte que je sais pas grand-chose, mais en même temps, plus je prends du plaisir à apprendre et à me dire « Mais waouh, c'est incroyable tout ce que je savais pas avant. Et maintenant que je sais. »
C'était le 10e épisode de Par Intermittence. Un podcast de Thalie Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle, mais aussi des pigistes, comme vous l'avez constaté à l'instant. Merci beaucoup à Caroline pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Nous nous retrouvons très prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, rendez-vous sur thaliesanté.org et les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.